Nous accueillons Marc Donato qui a choisi Épiphanie et Couronne des Rois pour illustrer sa prochaine conférence lors des Journées du Patrimoine ce week-end.
Alors bonjour Marc, je suis ravie de vous accueillir dans notre studio. Comment allez-vous ?
Très bien, je vous remercie Camille et merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Alors, il paraît que vous êtes un insatiable curieux, c'est ce qu'on m'a dit en coulisses. Je tairai le nom de celui qui m'a dit ça. Et on le croit volontiers quand on voit la thématique de votre prochaine conférence. Alors racontez-nous, comment vous est venue cette envie de remonter à la naissance de l'Épiphanie jusqu'à cette fameuse couronne des rois qu'on a l'habitude de voir avec nos galettes ?
Ça semble être un peu gourmande, non ?
Comment vous avez deviné ?
Oui, de toute façon, dès qu'un sujet m'interpelle, j'essaye de le traiter. Donc, celui de l'Épiphanie, il est arrivé un beau jour où, mangeant une couronne ou une galette, je ne sais plus, comme ça se fait partout à partir du mois de janvier, je me suis dit, mais tous les gens qui sont là, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font ? Ils mangent un gâteau, certes, mais savent-ils l'histoire de ce gâteau ? Et à partir de là, je me suis dit, bon, il faut chercher un petit peu ce que c'est que ce gâteau, ce que c'est que cette fête, ce que c'est que ces rois mages. Et j'ai recherché et ça a donné cette conférence.
Et ben en tout cas, c'était une bonne idée parce que moi, personnellement, c'est vrai que l'épiphanie, c'est un mot qu'on emploie souvent dans le langage courant, mais moi, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est l'épiphanie ? D'où ça remonte ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer
Alors,
la naissance ?
Cette fête est une très, très ancienne fête païenne qui est en rapport avec la renaissance du jour, le début, la fin du solstice d'hiver, si vous voulez. Et elle a été fêtée sous différentes formes, mais pas sous le nom d'Épiphanie, bien évidemment. Elle a été fêtée sous différentes formes parmi les peuples les plus anciens. Et lorsque la naissance de Jésus est arrivée, il y a un évangéliste, c'est Luc, un seul, qui raconte l'arrivée des rois mages qui ont suivi une étoile. Donc il y avait une double apparition, je puis dire, à la fois la lumière avec l'étoile et puis la lumière au sens figuré avec la naissance du nouveau roi des Juifs qui arrivait et qui était censé porter une lumière sur la terre. Épiphanie veut dire la lumière, l'apparition lumineuse.
Tout simplement. Et est-ce que c'est une fête qu'on retrouve uniquement dans la religion chrétienne ou est-ce qu'on retrouve aussi des traces de cette épiphanie ou un nom différent dans d'autres religions ?
On la trouve essentiellement dans la religion chrétienne, mais je vous ai dit qu'elle était fêtée sous une autre forme dans les religions païennes. Et donc, de toute façon, l'homme a toujours fêté le renouveau de la nature. Et il faut mettre l'épiphanie en rapport avec cette renaissance, cette fin du solstice, comme je vous disais tout à l'heure.
Alors, comment on passe d'une fête, justement, du solstice, du renouveau, ou à une fête chrétienne, selon les différentes origines, à une histoire de galette des rois, et surtout de cette couronne ? Qui c'est qui a créé cette histoire de couronne et cette histoire de galette des rois ensuite ?
Alors, on passe de la fête païenne à la fête chrétienne par le fait qu'à un certain moment, il a fallu remplacer les autorités ecclésiales. On pensait qu'il fallait remplacer le culte de Mithra, qui était très, très pratiqué, plus que celui du Christ, qui était un culte naissant. Parce qu'il était suivi par beaucoup de femmes. Les femmes adhéraient à la doctrine chrétienne. Et il a fallu, à un certain moment, qu'ils prennent des décisions. Et ils ont décidé de faire naître le petit Jésus, j'allais dire, le Christ, le 25 décembre. Mais alors, il y avait un vide, parce qu'au départ, il y avait une naissance autour du 6 janvier. Il y avait un vide le 6 janvier. Et ils ont donc choisi l'arrivée des rois mages. Ils ont placé l'arrivée des rois mages au 6 janvier. C'est pour ça que jusqu'à ces dernières années, l'épiphanie était fêtée le 6 janvier et maintenant elle est fêtée le 1er janvier ou le dimanche le plus proche en tout cas du 1er janvier.
Et la galette, c'est apparu quand ?
Alors la galette, c'est une longue histoire. Dès l'Antiquité, on tirait au sort un personnage, un roi, un prince, pour la journée ou pour plusieurs jours, à partir d'un tirage au sort qui se faisait dans un gâteau. Au Moyen-Âge, ce gâteau a pris la forme de pastel qui s'appelait le pastel à fèves. On tirait une fève. Celui qui ressortait la fève était le gagnant. Puis les chanoines de Besançon ont élu leur maître de chapitre avec un gâteau du même genre, ont tiré une pièce de monnaie cette fois-ci. Plus tard, à un certain moment, François Ier a dû prendre des décisions concernant un différend qui opposait les boulangers et les pâtissiers. Les boulangers faisaient un gâteau dans lequel on tirait une fève aussi. Celui qui gagnait la fève était obligé de venir acheter une deuxième galette. C'était le retinton. Elle s'appelait le retinton. Et à un certain moment, il y a eu un litige entre les boulangers et les pâtissiers. Et François Ier a pris un édit permettant aux pâtissiers de faire autre chose. Alors, il y a d'un côté la galette, de l'autre côté, il y a la couronne. Voilà.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve toujours avec finalement deux galettes et qu'on a toujours ce choix cornélien. Est-ce que je choisis la frangipane ou la brioche ?
Eh bien, il faut manger des deux, ma chère. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que la frangipane soit plus typique du sud de la France, puisque les amandes, etc. Eh bien non, c'est celle qui est caractéristique du nord, alors que nous, ici, nous avons la brioche, le gâteau qui, avec tous les fruits confits dessus, qui représentent bien sûr les pierres précieuses de la couronne, etc.
Tout à fait. Alors, j'ai une question un petit peu plus, on va dire... politique ou en tout cas philosophique d'actualité. Vous savez qu'après les événements de Charlie Hebdo, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport aux traditions chrétiennes qu'on peut avoir en France et le fait, notamment, il y avait eu des polémiques sur les crèches dans les mairies. La galette des rois et donc l'épiphanie, ça reste quand même une fête chrétienne, même si, comme vous nous l'avez expliqué, c'était une fête païenne, une fête qui remonte à bien plus loin. Est-ce que vous trouvez que c'est problématique en France de garder ces traditions chrétiennes dans une république dont la valeur quand même centrale est la laïcité?
Si je viens chez vous, il faut que vous m'hébergez, chère Camille, et puis que je décide de changer le papier peint, de virer la bibliothèque et d'en acheter une autre, il arrivera un moment où vous me direz « mais attends, je ne suis plus chez moi ». Donc je considère que vos meubles, vos tapisseries, c'est quand même votre choix. Et dans notre pays, il y a plusieurs racines qui s'enfoncent dans le sol, et il y a celle-là. On est quand même dans un pays chrétien. Alors qu'il y ait des accommodements, pourquoi pas, mais tout supprimer, comme je l'ai entendu cette semaine dans une certaine école, on évite même de prononcer le mot « santon », je trouve qu'il y a là un recul de la culture qui est quand même inquiétant.
Et est-ce que le fait de décider de peut-être que certaines religions qui sont finalement un peu à parts égales aujourd'hui dans notre pays, je pense que la religion musulmane et la religion chrétienne, on est arrivé à un point... à peu près égal en termes de proportion, est-ce qu'on pourrait instaurer des jours fériés pour d'autres religions en France ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Est-ce que ça relève franchement du politique ? Je pense que oui. Il arrivera un moment où il faudra bien se poser la question. J'ai vécu dans un pays qui est un peu des pays du Maghreb, où il y avait toutes les fêtes qui étaient honorées. Alors après, il y a une question de dosage, il y a une question de philosophie aussi, il y a une question de méthode, mais cela, c'est indéniable que la question devra se poser.
Alors j'ai une autre question, on change un petit peu de thématique. Là, en fait, je fais un petit peu appel à l'ancien prof d'histoire que vous étiez et au fait notamment qu'il y a eu des propositions gouvernementales pour faire évoluer les programmes et notamment supprimer l'histoire dans certains cursus, les cursus scientifiques. Est-ce que c'est grave de supprimer de l'histoire?
Alors, supprimer l'histoire, c'est extrêmement grave. Hein, parce qu'on dit toujours que si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de cette histoire de religion. Je vous ai parlé d'un des pivots, d'une racine. L'histoire en est une deuxième. Et si on commence à enlever, et j'ai eu l'occasion, pour des raisons personnelles, de mettre mon nez un petit peu dans les programmes de terminale cette année, si on commence à hacher l'histoire ou à supprimer une partie de l'histoire, ben ça procède de la même intention que celle de faire reculer la religion chrétienne. C'est pareil, ce sont des racines que l'on coupe. Et à partir de là, quel peuple on aura ?
D'autant qu'on sait très bien, je reviens sur l'histoire de la religion, qu'on a un socle commun entre ces trois religions, que sont la religion judaïque, chrétienne et musulmane. Donc ça, peut-être qu'il est important de le rappeler aussi.
Vous savez, dans mes classes, moi, quand j'enseignais, il y avait le calendrier, je le commande au CRDP de Strasbourg, vous voyez, je suis précis. Il y avait un calendrier derrière la porte avec toutes les fêtes chrétiennes, toutes les fêtes musulmanes et toutes les fêtes juives.
Je trouve que c'est une belle anecdote à rappeler. On va revenir sur des sujets un peu plus légers et sur votre actualité, Marc Donato. Alors, il y a évidemment cette conférence. Cette conférence, je vous vois, vous frottez la joue. Oui, vous êtes connu, Marc Donato, dans la région. Alors, votre actualité, c'est évidemment cette conférence dont on a parlé de l'épiphanie à la couronne des rois qui aura lieu le 19 septembre, c'est ça,
à 16h.
À 16h.
À Notre-Dame de Romijé. Entrée donc gratuite, bien sûr.
Voilà, et organisée par
les amis de Notre-Dame de Romijé.
Voilà, ça c'est pour l'actu immédiate. Et puis, vous m'avez confié hors antenne tout à l'heure que vous étiez un homme très occupé. Alors, outre vos nombreux articles et vos nombreux écrits dans différentes revues, que ce soit Patrimoine et Mémoire, la revue de Saint-Ulpierre-Vert, ou Haute-Provence Info, on salue nos confrères du journal. Vous êtes en train de plancher sur un roman, et un roman qui a une thématique intéressante, puisque c'est celle d'une immigration ratée à Montfuron. Alors, est-ce qu'on peut avoir en exclusivité un petit peu le thème de ce roman?
Vous savez, le thème de l'immigration, ça me démange, hein, parce que j'oublie pas d'où je viens et que je suis le produit de migrants aussi. Mes arrière-grands-parents ont pris la balancelle de Naples pour arriver en Algérie, certainement pour des raisons un petit peu alimentaires. Et puis, de mon côté, j'oublie pas ce que j'ai vécu en 62. Je suis moi-même un autre migrant. Mais c'est vrai que ce thème de l'immigration m'a touché parce que j'aime bien ce village de Montfuron et qu'il y a eu plusieurs immigrations à Montfuron, les plus importantes étant l'immigration albanaise qui s'est enracinée à Montfuron. Et puis il y a eu quelques années avant, 5-6 ans auparavant, une immigration italienne, 8 familles italiennes, qui a complètement raté. Les gens étant repartis sur Rome, puisqu'ils venaient de la région de Rome, ou ailleurs, mais ça a complètement raté. Et c'est cette histoire que je suis en train de rechercher. Bien sûr, sur un fond d'histoire d'amour.
Ah, c'est ce que j'allais vous dire. Vous m'avez confié qu'il y aura quand même une histoire d'amour dans ce roman. Et Dieu sait qu'on en a besoin d'amour en ce moment. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur les migrants, puisque c'est malheureusement les réfugiés, les migrants, c'est le principal thème de nos journaux télévisés, de nos journaux d'information aujourd'hui. Quel regard vous posez, justement, vous, là-dessus, qui avez été migrant par deux fois?
C'est un regard très ambigu par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, que je suis moi-même le fruit de deux émigrations, mais que d'un autre côté, je crois que c'est un homme de gauche qui s'appelait Rocard.
Qui a dit « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ».
C'est tout, point final.
Ça s'arrêtera là. On s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup Marc Donato.